en habit vert. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Virginia Crespo.
Bonjour, vous êtes à l'écoute de Canal Académie, la première radio académique francophone sur Internet. Hélène Carrère-Dancos, bonjour. Vous êtes la première femme à occuper les fonctions de secrétaire perpétuelle de l'Académie française depuis la création de cette académie en 1635. Quelle est la place des femmes à l'Institut de France et dans les 5 académies qui la composent ?
Alors, je dirais que la place des femmes à l'Institut de France va croissant, mais elle n'est pas encore considérable. Si je peux donner une petite statistique, là où elle est la plus importante, c'est à l'Académie des sciences, mais l'Académie des sciences est nombreuse. Les académiciens des sciences sont pas loin de 250. Ils ont 19 femmes actuellement, si mon compte est juste, ce qui n'est pas tout à fait éblouissant. L'Académie française vient en second avec 4 femmes aujourd'hui. Florence Delay a été rejointe par Assia Djebbar récemment. 4 femmes sur 40 académiciens, c'est 10% de l'effectif. À cet égard, nous avons accompli un progrès considérable. Les autres académies, à ma connaissance, je ne parle pas des correspondants, c'est une autre situation, je parle des membres pleins. Les 3 autres académies ont 2 membres, chacune des Beaux-Arts, l'Académie des inscriptions et belles-lettres et l'Académie des sciences morales et politiques. Alors il y a par-ci, par-là, une femme correspondant, mais le total n'est pas tout à fait éblouissant. Je dois dire que les 3 autres académies ont plus de membres que l'Académie française. Donc cette académie qui a été considérée comme un haut lieu du conservatisme masculin, une citadelle masculine. La première femme est rentrée en 1980, c'était Marguerite Yourcenar. Et ce n'est pas l'Académie française qui a ouvert la brèche. Alors là, M. Cluzel le dirait mieux que moi. C'est Mme Bastide, Suzanne Bastide, qui a été élue la première à l'Académie des sciences morales et qui a considéré, moi je me souviens, puisqu'elle avait été mon professeur, qu'elle a fait une percée. Et j'ai fait partie de ces étudiants qui lui ont offert, non pas une épée d'académicien, mais le bijou en forme d'épée qu'elle avait souhaité. Et elle m'avait dit, un jour, vous me succéderez. Ben, je ne sais pas à elle que j'ai succédé, mais je crois qu'elle n'est pas mécontente de moi. Là où elle se trouve, et l'Académie des sciences morales a élu sa fille, Marianne Bastide-Bruguière. Je dirais que ce tableau se complète par le fait que les femmes occupent peu de fonctions de haute responsabilité dans les académies. La première femme, je crois, qui occupait de vraies fonctions de responsabilité était Mme Grimbert-Manago, qui a été présidente de l'Académie des sciences il y a une dizaine d'années. C'était une révolution. J'ai été élue secrétaire perpétuelle de l'Académie française, ce qui est une révolution. Dans les 32 secrétaires perpétuels qui m'ont précédé, il n'y a jamais eu de femme. Et Mme Ledouarin avait été élue l'un des 2 secrétaires perpétuels de l'Académie des sciences, mais à l'Académie des sciences, les secrétaires perpétuels n'ont qu'un temps. Et elle a été remplacée par un homme, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a qu'une académie. Avec une femme à sa tête, on ne peut pas dire que ce soit un tableau qui rende compte de la place des femmes dans le monde de la recherche, de la littérature. Mais moi, je ne pleure pas là-dessus. Je pense que les progrès accomplis sont spectaculaires et que les académies s'ouvrent. Le combat pour la parité, que parfois on me suggère, on me dit « alors, ça sera quand la parité ?» se heurte à une réalité que mon confrère, le professeur Jean Bernard, qui est un homme d'une science affinie et d'une très grande sagesse, corrige en disant « n'oubliez pas que la longévité des femmes est beaucoup plus grande que celle des hommes et que si vous faites la parité, un beau jour, il n'y aura plus d'hommes du tout. »
Et maintenant, j'ai envie, Madame Carrère-Dancos, de vous poser quelques questions. D'abord, on va parler, si vous le voulez bien, de l'Académie française. L'Académie française n'est pas structurée, comme certaines autres académies, en sections ou en divisions, mais en fauteuils. Il y a 40 fauteuils pour 40 immortels. C'est une compagnie de confrères. Est-ce que vous appelez vos consoeurs, confrères? Comment ça se passe?
L'Académie française n'a pas d'académicienne.
Oui, elle a des femmes académiciennes.
Oui, exactement, nous défendons la thèse du côté neutre des fonctions et par conséquent, nous ne les mettons pas au féminin.
Alors, vous occupez-vous le fauteuil 14. Chaque fauteuil de l'Académie a son histoire avec des prédécesseurs illustres. Quels sont vos prédécesseurs?
Alors d'abord, je vous dirais que les fauteuils sont très intéressants parce qu'il en est qui ont été peuplés par des noms illustres. Il en est, et ça montre ce qu'est le jugement du temps, qui peut être cruel, mais qui peut rebondir. Il est des fauteuils, quand vous lisez la liste des membres qui les ont occupés, eh bien vous vous interrogez, vous dites, qui est-ce? Alors le 14e fauteuil est un des très beaux fauteuils. C'est un fauteuil qui a eu 16 occupants avant moi, c'est-à-dire 17, ce qui fait une moyenne d'occupation, puisque l'Académie est née en 1635, une moyenne d'occupation de 21 ans.
Une belle longévité.
Attendez, il y a de tout là-dedans. Et c'est un des fauteuils les plus remarquables, car il y a eu des personnalités. Et il a été ouvert par Ménard, qui était un conseiller au Parlement, mais ensuite il y a eu Pierre Corneille, puis Thomas Corneille qui lui a succédé. Pierre Corneille était plus glorieux, incontestablement, mais Thomas Corneille, en son temps, a été un dramaturge extrêmement glorieux. L'une des gloires les plus remarquables de ce fauteuil est Victor Hugo, le comte de Lille, de grandes gloires militaires, le maréchal Lyautey, le maréchal Franchet d'Espéret. Une gloire, je dirais, l'héroïsme associé à la tradition historique, le comte Robert d'Harcourt, un très grand connaisseur de l'Allemagne, un homme d'une infinie culture qui est Jean Mistler, mon prédécesseur. Donc vous voyez, c'est un peuplement remarquable. Alors, de la même façon, comme tous les autres fauteuils, il y a des occupants dont on se demande qui ils ont été. Par exemple, l'un des premiers, le troisième ou quatrième, a été le fils du Bussy Rabutin connu qui occupait un autre fauteuil. Oui, Roger Bussy Rabutin est celui qui avait écrit l'histoire des Gaules, mais son fils, qui était évêque de Luçon, était connu pour ne point écrire. Il a probablement été élu par référence au nom de son père. Il est des noms peu connus, comme celui de Néjon, qui appartenait à l'équipe de l'encyclopédie, mais qui n'avait rien de remarquable. Il faut y réfléchir, mais il était connu comme un athée extrêmement fanatique. Donc, vous voyez, il y a de tout dans ces...
Il y a un
Chabanon dont la définition était qu'il n'était pas bon en littérature ni en rien d'autre. Bon, alors, il y a quelqu'un qui est aussi dans les noms comme ça. Et il y a André Housset. Eh bien, il a été illustre parce que son père, Arthur Housset, a écrit un livre qui s'appelle « Le 41e fauteuil » et qui raconte l'histoire de tous ceux qui n'ont pas fait partie de l'Académie, depuis Molière jusqu'à Zola, Balzac, Dumas père, etc. Et en passant par Jean-Jacques Rousseau et combien d'autres. Il y a ceux qui ont vécu, ces 21 ans sont une moyenne. Celui qui a eu la plus grande longévité, vous ne vous en étonnerez pas, c'est Victor Hugo, 41 ans de vie académique, qui a été suivi par Corneille, 37 ans de vie académique, les plus illustres ont vécu. Bussy Rabutin, que j'évoquais, qui n'était que le fils d'un homme illustre, lui n'a vécu que 4 ans de vie académique. Vous voyez que la moyenne est faite avec des écarts extraordinaires.
Extraordinaire. Alors, on vous souhaite évidemment une très longue longévité sur ce fauteuil 14, Madame Carrère d'Encausse. L'Académie française bénéficie d'un, entre guillemets, chef et protecteur. Au XVIIe siècle, c'était le cardinal de Richelieu. Aujourd'hui, c'est le chef de l'État. Madame, quelle relation entretenez-vous dans le cadre de vos fonctions de secrétaire perpétuelle avec le chef de l'État? Êtes-vous amenée à le solliciter, à le rencontrer fréquemment?
Alors, je dirais qu'il y a eu probablement beaucoup plus de relations entre le protecteur et l'Académie au temps de la monarchie. Incontestablement, les rois de France, à commencer par le roi Louis XIII, se sont intéressés beaucoup à l'Académie. Ensuite, ces relations sont devenues plus formelles, ça n'est pas la peine de le nier. Le protecteur a un rapport permanent avec l'Académie, institutionnel, car lorsqu'un académicien est élu, c'est la seule Académie où ce soit ce cas, il n'y a pas de décret qui rende légale son élection. Il y a la réception par le chef de l'État, et ça suffit. Le chef de l'État reçoit le nouvel élu, et à partir de ce moment-là, son élection est confirmée. Ça pose parfois des problèmes, puisque, par exemple, le général de Gaulle ne voulait pas recevoir Paul Morand, et l'élection de Paul Morand a été longtemps retardée. Le général de Gaulle ne disait pas « je ne veux pas qu'on élise Paul Morand ». Il disait « je ne le recevrai pas », ce qui n'est pas tout à fait pareil. Donc ça, c'est l'occasion où le chef de l'État est, je dirais, institutionnellement lié à l'Académie. Alors, moi, les secrétaires perpétuels précédents, nous nous tournons vers le protecteur, car le protecteur n'assiste pas aux séances, je voudrais le dire, pour une simple raison, enfin, aux séances solennelles. Il est arrivé rarement que le chef de l'État vienne assister à l'installation d'un nouvel académicien. M. Giscard d'Estaing était venu assister à l'installation de Mme Yourcenar. M. Chirac est venu assister à l'installation de M. Pierre Messmer parce qu'il avait été Premier ministre, mais il y a une règle non écrite que comme il ne peut pas venir pour tout le monde, il y a, les académiciens sont tous égaux, donc il ne vient pas. Alors, il arrive qu'on se tourne vers lui pour lui demander non pas une aide matérielle, car l'Académie française vit pratiquement de ses ressources, mais pour lui demander une aide morale. Par exemple, sur des questions linguistiques, il nous est arrivé de nous tourner vers le chef de l'État pour lui demander qu'il veuille bien donner son sentiment ou nous soutenir. Je pense que c'est un lien relativement ténu. Probablement parce que les chefs de l'État pensent qu'ils ont autre chose à faire que de s'occuper de l'Académie. Monsieur Mitterrand, je veux le dire, était particulièrement intéressé par l'Académie française. C'était un littéraire.
On sait son
goût,
homme
de lettres,
en effet.
Oui. Il avait un grand goût pour l'Académie. Il aimait beaucoup qu'on lui explique les affaires de l'Académie.
Madame, lorsque vous avez été reçue sous la coupole, le jeudi 28 novembre 1991, vous avez, comme il est d'usage, prononcé l'éloge de votre prédécesseur, Monsieur Jean Mistler. Vous avez commencé votre discours par des mots très émouvants, en vous présentant comme une enfant venue d'ailleurs. Permettez-moi de vous citer. L'enfant venu d'ailleurs s'appropria la France, la patrie d'accueil des siens, la patrie choisie, et par là, passionnément aimé, en absorbant avec avidité ce qui en était l'essentiel, la littérature et l'histoire. Madame Carrère-Dancos, on vous connaît comme historienne, spécialiste de la Russie, comme éditorialiste de la presse écrite, où vos analyses politiques ont un grand poids, comme professeur d'université et de grandes écoles. Dans ce discours, vous reprenez l'expression de Milan Kundera, l'Occident kidnappé, pour dire que l'Europe, à vos yeux, est amputée d'une part d'elle-même, la Russie. Alors l'enfant venu d'ailleurs, souffre-t-elle d'entendre des expressions comme « l'Occident » et la Russie, ou l'Europe et la Russie?
J'essaye de mon mieux de faire comprendre que la Russie est un pays d'Europe. Et je crois que j'ai raison, je crois que la tragédie de l'histoire russe, qui a été une très longue tragédie, a été, d'abord, ce pays a été arraché à l'Europe auquel il appartenait, car il ne faut tout de même pas oublier que la princesse Anne de Kiev a été reine de France dans des temps extrêmement anciens. L'invasion des Mongols au milieu du XIIe siècle a arraché la Russie à l'Europe, elle l'a coupée de l'Europe. Et il y a eu 3 siècles pendant lesquels l'histoire de l'Europe s'est développée, le Moyen-Âge, la découverte de la Renaissance, tandis que la Russie vivait à son rythme. Il y a eu, je dirais, une Renaissance, mais tardive en Russie. Alors ensuite, bon, là, à partir du XVIIIe siècle, la Russie est un pays européen comme on ne peut pas en rêver plus, sur les bords de la Neva, la cour, surtout de Catherine II, c'était la cour de France, littéralement. On y parlait français, on pensait français, on aimait tout ce qui était français, on écrivait en français, et on recevait des Français en permanence. Et tous les écrivains russes, à partir de cette époque, écrivent en introduisant des phrases, et même parfois des bouts de texte en français dans le texte. D'ailleurs, lisez Tolstoï, et vous avez partout en français dans le texte. La révolution russe a coupé la Russie de l'Europe. Et 1945, avec le rideau de fer, a véritablement fait de la Russie une autre Europe. Ce qui était déjà un progrès, d'une certaine façon. Il y avait une Europe, puis l'autre Europe. Depuis 1990, quand je suis rentré à l'Académie, que j'ai fait ce discours, il n'était pas encore clair que la Russie allait être émancipée du communisme qu'il avait coupé de l'Europe. Les choses se sont déroulées dans les mois qui ont suivi. Mais enfin, déjà, tout bougeait. Et à partir de ce moment-là, s'est posé le problème véritablement du rapport de la Russie avec l'Europe. La Russie, c'est l'Occident, même si elle est étendue sur 2 continents, l'Europe et l'Asie. C'est une Eurasie à elle toute seule. Mais néanmoins, c'est un pays qui se sent européen. Sa population vit dans sa partie européenne. C'est un pays de culture, de civilisation européenne et qui se définit par la religion chrétienne, l'orthodoxie majoritaire, mais aussi un catholicisme minoritaire. C'est-à-dire, pour la Russie, c'est une définition de l'Europe. Pourquoi ne rejoint-elle pas l'Union européenne? C'est une bonne question. Elle ne peut pas rejoindre l'Union européenne, je dirais, d'abord parce que c'est un pays trop grand. 150 millions d'habitants, 17 millions de kilomètres carrés, ça tirerait l'Europe vers l'Asie, ça la déséquilibrerait. Mais depuis 1994, depuis l'accord de Corfou, qui est le premier accord entre l'Union européenne et la Russie redevenue Russie, on peut dire que la Russie se travaille avec l'Europe à construire plus qu'un partenariat privilégié, à construire une relation qui marque sa qualité européenne et qui lui permette de partager le destin de l'Europe institutionnelle qui s'est étendue très loin jusqu'à ses abords.
Votre dernier ouvrage paru s'intitule d'ailleurs « L'Empire d'Eurasie, une histoire de l'Empire russe de 1552 à nos jours ». Et vous écrivez, et permettez-moi de citer une fois encore votre discours qui décidément a été ma source d'inspiration. À ma modeste place, celle de l'historien, je me suis efforcée de contribuer au maintien de la mémoire de ces hommes et de ces peuples qui en étaient privés. Vous faites évidemment allusion au communisme dans les anciens États soviétiques, aux camps, à l'enfer glacé des camps, comme vous dites, aux mensonges officialisés. Est-ce pour refuser c'est inacceptable, c'est inhumain que vous, l'enfant venu d'ailleurs, vous avez écrit tant d'ouvrages consacrés à la Russie et à l'analyse des systèmes totalitaires.
Alors, je crois que c'est inacceptable à exister, mais que ce n'est pas la définition de la Russie. C'est la définition d'un système politique, d'une idéologie pervertie, incontestablement, parce que le pauvre Marx n'avait jamais imaginé qu'en son nom, on ferait des sottises pareilles, des horreurs pareilles. C'était un penseur, ça n'était pas du tout un fanatique. Ses successeurs, ceux qui se sont réclamés de lui, ont en effet créé un système totalitaire, mais je dirais qu'il y a 2 choses qui ont joué là. D'une part, une pensée pervertie, une passion du pouvoir, et deuxièmement, au fond, le fait que le XXe siècle a été un temps de ténèbres. Il n'y a pas que la Russie qui a eu cet inacceptable. L'Allemagne l'a connu aussi, on peut dire que ça a été le siècle des ténèbres. Et si ces ténèbres ont été épargnées à la partie de l'Europe où nous sommes, à une partie de l'Europe, ça a été un coup de chance. Ça aurait pu s'étendre en 1917, ça aurait pu s'étendre en 1945. Vous savez, en 1945, il y a eu tout un débat autour de Staline. Beaucoup de ses généraux disaient « Allons jusqu'à Paris ». Et lui, qui était plus timoré qu'on ne le croit, ou qui avait conscience que son pouvoir étendu à l'infini pourrait vaciller, a été celui qui a freiné. On n'a pas encore écrit cette histoire, justement, de l'hésitation. Bon, mais ce n'est pas, je dirais que ce n'est pas la Russie. D'une certaine façon, pas plus que l'Allemagne. Les Allemands sont le nazisme, et l'histoire de l'Allemagne, c'est autre chose que le nazisme, même s'il y a une période tragique. C'est inacceptable, c'est une mémoire qui a été maintenue, et ça, je tiens à le dire, non pas par des gens comme moi, elle a été maintenue d'abord de l'intérieur, par des esprits remarquables, par Solzhenitsyn, par tous ceux qui, du fond de leur camp, ont pensé que ce qui était important dans un système qui brisait les hommes, qui les détruisait et qui instaurait le mensonge, ils ont pensé qu'il était décisif de maintenir une mémoire orale et de maintenir un discours qui dise la vérité. Alors, moi, je me suis efforcée, mais c'était plus facile, hein, j'étais sur les bords de la Seine, je ne risquais rien. Je me suis efforcée, d'une certaine façon, d'être le passeur de cette histoire tragique, de ces voix qui, sous les décombres, dans le silence, s'efforçaient de se faire entendre. C'est un travail modeste, nous avons été un certain nombre à faire ça. Je dirais que quand tout cela s'est achevé, en 1992, je garde un souvenir absolument émerveillé. Bon, j'étais beaucoup en Russie à ce moment-là, du vent de liberté qui a soufflé. J'ai assisté, et à Berlin, au moment de la chute du mur, et entre 91 et 92 en Russie, à une explosion de liberté et d'espérance tout à fait prodigieuse. Ce que je regrette un petit peu, parce que je ne veux pas introduire ici une note triste, je regrette un petit peu que cet enthousiasme n'ait pas été entendu partout et qu'on ait oublié qu'il y a eu un vrai miracle de l'histoire qui a émancipé des peuples.
En tout cas, vous en étiez le témoin. Merci, Madame Carrère-Dancause. Pour terminer, je voudrais indiquer à nos auditeurs de Canal Académie que c'est Monsieur Michel Déon qui a, selon la tradition académique, répondu à votre discours de réception sous la coupole et que ces deux discours sont publiés aux éditions Fayard. Je voudrais également indiquer le site de l'Académie française, un site qui, par la faute d'Internet, nous oblige d'emblée à commettre une faute d'orthographe, puisqu'il faut taper academie-française, donc E sans accent, .fr. Et puisque nous parlons d'orthographe, eh bien je suis heureuse d'annoncer à nos auditeurs que nous aurons le plaisir de vous retrouver dans quelques heures pour une seconde émission avec vous, relative cette fois à vos fonctions de présidente de la Commission du dictionnaire de la langue française et de la Commission des bibliothèques et des archives. Et comme nos auditeurs, vous pourrez ainsi découvrir, grâce à Mireille Pastoureau, conservateur et directeur général de la bibliothèque de l'Institut, les richesses au féminin de cette bibliothèque.